Mais les résistances du souverain pontife ne s'arrêtaient pas là. Il savait que, une fois sur le terrain de l'abbaye, sa légation serait soumise à la juridiction de l'abbé. Et comme elle serait aussi en partie composée de membres du clergé séculier, il n'acceptait pas cette clause, invoquant sa crainte d'une chausse-trappe impériale. Il avait alors posé la condition que l'intégrité de ses envoyés serait confiée à une compagnie d'archers du roi de France, aux ordres d'une personne ayant toute sa confiance. J'avais vaguement entendu Guillaume discuter de cela avec un ambassadeur du pape à Bobbio. Il s'était agi de définir la formule par laquelle désigner les devoirs de ladite compagnie, autrement dit, ce qu'on entendait par sauvegarde de l'intégrité des légats pontificaux. On avait finalement accepté une formule proposée par les Avignonnais et qui avait paru raisonnable. Les gens armés et qui les commandaient auraient eu juridiction sur tous ceux qui, en quelque manière, cherchaient à attenter à la vie des membres de la légation pontificale et d'en influencer le comportement et le jugement par des actes violents. Alors, le pacte était apparu comme inspiré par de pures préoccupations formelles. À présent, après les faits récents survenus dans l'abbaye, l'abbé se montrait inquiet et il manifesta ses doutes à Guillaume. Si la légation arrivait à l'abbaye, alors que l'auteur des deux crimes était encore inconnu. Le lendemain, les préoccupations de l'abbé devaient augmenter car les crimes seraient portés au nombre de 3. Il aurait fallu admettre que circulait dans ses murs un quidam capable d'influencer par des actes violents le jugement et le comportement des légats pontificaux. Il ne servait à rien de chercher à cacher les crimes qui avaient été commis, car s'il s'était passé encore autre chose, les légats pontificaux eussent pensé à un complot dirigé contre eux. Il ne restait donc à choisir qu'entre 2 solutions. Ou Guillaume découvrait l'assassin avant l'arrivée de la légation, et ici l'abbé le regarda fixement comme pour tacitement lui reprocher de n'être pas encore venu à bout de l'affaire, ou bien il fallait avertir loyalement le représentant du pape de ce qui se passait et demander sa collaboration pour que l'abbaye fût placée sous surveillance redoublée durant le cours des travaux. Chose qui déplaisait à l'abbé, car cela signifiait renoncer à une partie de sa souveraineté et placer ses moines même sous le contrôle des Français. Mais on ne pouvait pas prendre de risques. Guillaume et l'abbé étaient tous deux contrariés par la tournure que prenaient les choses, mais ils avaient peu d'alternatives. Ils se promirent par conséquent d'adopter une décision définitive d'ici le lendemain. En attendant, il ne restait plus qu'à se confier à la miséricorde divine et à la sagacité de Guillaume. « Je ferai l'impossible, votre sublimité, » dit Guillaume. « Néanmoins, je ne vois pas comment l'affaire peut vraiment compromettre la rencontre. Même le représentant pontifical voudra bien comprendre qu'il y a une différence entre l'œuvre d'un fou ou d'un sanguinaire, ou peut-être seulement d'une âme égarée, et les graves problèmes que des hommes probes viendront discuter. « Vous croyez ?» demanda l'abbé en regardant fixement Guillaume. « N'oubliez pas que les Avignonnais savent qu'ils rencontrent des minorites, et donc des personnes périlleusement proches des fraticelles, et d'autres encore plus insensées que les fraticelles, des hérétiques dangereux qui se sont souillés de crimes. » Et ici l'abbé baissa la voix, en regard desquels les faits du reste horribles qui sont arrivés en ce lieu-ci pâlissent comme brume au soleil. « Il ne s'agit pas de la même chose, » s'exclama Guillaume avec vivacité. Vous ne pouvez pas mettre sur le même plan les minorites du chapitre de Pérouse et quelques bandes d'hérétiques qui ont compris de travers le message de l'Évangile, transformant la lutte contre les richesses en une série de vengeances privées ou de folies sanguinaires. À peine quelques années sont passées depuis que, à quelques milles, tout juste d'ici, une de ces bandes, comme vous les appelez, a mis à feu et à sang les terres de l'évêque de Vercelles et les montagnes de la contrée de Novare, dit l'abbé d'un ton sec. Vous parlez de Fradolcino et des apostoliques, des pseudo-apôtres. Corrigea l'abbé. Et encore une fois, j'entendais citer Fradolcino et les pseudo-apôtres, et encore une fois d'un ton circonspect et presque avec une nuance de terreur. Des pseudo-apôtres, admit volontiers Guillaume, mais eux, ils n'avaient rien à voir avec les minorites.
Dont ils professaient la même révérence pour Joachim de Calabre, répliqua l'abbé, et vous pouvez le demander à votre frère Hubertin.
Je fais relever à votre sublimité que c'est maintenant votre frère à vous, dit Guillaume, avec un sourire et une sorte de courbette, comme pour complimenter l'abbé de l'acquisition que son ordre avait faite en accueillant un homme d'une telle réputation.